quart de siècle, j'avais 18 ans, et en faisant mes devoirs, quelques mois avant le baccalauréat, à travers le mur qui séparait ma chambre de celle de mon frère, j'entendais la même boucle musicale qui me faisait hocher la tête d'un air que j'imaginais très cool, et qui ne l'était sans doute pas tant que ça. Je l'associe, cette boucle, aux fiches que j'apprenais par cœur et dont il me revient une ligne mélodique, en fait. J'avais aucune idée de ce qu'elle allait marquer, cette boucle, de ce que cet album allait faire résonner dans le monde entier. À cette époque, j'étais en banlieue parisienne, sur mon lit superposé, et j'écoutais cette locution Around the World qui a été répétée 144 fois dans la version album de la chanson, avec sa ligne de basse, sa voix synthétisée, ses couleurs robotiques. Je revois la pochette de l'album avec leur nom en lettres rouges, en minuscules, comme un écusson détouré qu'on aurait cousu sur un blouson. Je revois la chanson qui se décompose par piste ou par instrument à travers des athlètes, des nageuses, des momies, des squelettes, des androïdes qui piétinent un disque vinyle, le clip de Michel Gondry, mes cours de philosophie, et cet album qui s'appelait Homework, cet album qui allait changer l'histoire de la musique française en lui apportant une touche qui ferait notre gloire. Il y a 25 ans, très exactement, j'avais 18 ans, mes invités d'aujourd'hui en avaient 5 et 11 ans.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Que doivent mes invités au Daft Punk? Ils sont 6, 5 garçons et une fille, et ça fait une petite dizaine d'années que leur pop impérial fait son chemin. Après Mata Hari, Takotsubo, leur deuxième album, paraissait au printemps, et les voilà nommés aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation Féminine, aussi curieux que ça puisse paraître. Verdict le 11 février. Deux de ses membres sont présents avec moi ce matin. On pense évidemment à Annie, David, Achille et Tom qui nous écoutent. Bonjour Flore.
Bonjour.
Et bonjour Charles.
Bonjour.
Bonjour l'impératrice. Je me suis demandé, qu'est-ce que les Daft Punk ont semé jusqu'à un groupe comme le vôtre ?
Énormément de choses. Déjà une émotion, je crois. Je pense que quand on fait de la musique, tout part de l'émotion. Ce qui avait de particulier chez les Daft Punk, et qui moi m'a toujours marqué en tout cas, c'est cette espèce de rencontre qu'il y a entre la mélancolie et la joie dans chacun de leurs morceaux. Et même sur Homework, qui est un album quand même un peu plus dur, un peu plus techno, plus répétitif, il y a quand même ça, il y a quand même cette émotion constante. Et c'est ce que j'ai essayé d'aller chercher en premier quand j'ai fait de la musique, c'est cette émotion-là.
Flore, vous ressentez cette influence des Daft dans la musique de l'impératrice, les sons, les arrangements, les productions?
Oui, oui, même si voilà, j'avais 5 ans effectivement au moment de Homework, il y a notamment, je pense, le disco évidemment qui est revenu beaucoup avec les Daft Punk et qui est une musique qui nous a énormément influencé dans l'impératrice, avec ce goût pour la danse qu'on affectionne en live, et les synthétiseurs. Je pense que, alors je suis pas forcément, moi je suis la chanteuse du groupe, donc je suis pas forcément la meilleure placé pour en parler, mais Charles peut peut-être...
Oui, effectivement, ce que vous dites parfois, c'est que Daft Punk sont parvenus à être à la fois pointus et fédérateurs. À quoi ça tient? Je me suis demandé, un morceau fédérateur, pour vous?
C'est l'émotion, enfin, c'est ce que ça rejoint ce que disait Charles tout à l'heure, c'est l'émotion, vraiment, c'est un morceau qui peut procurer une émotion aux gens, qu'elle soit triste ou positive d'ailleurs, parce que nous, on a aussi fait beaucoup de morceaux tristes.
Et puis qui s'adresse, j'ai l'impression, aussi au corps de l'auditeur, à la façon de le mettre en mouvement. Ça, c'est passionnant, l'impératrice. Comment on fait pour animer le corps de l'auditeur, pour le faire planer, en l'occurrence?
Il y a vraiment une notion de groove derrière, de danse. C'est vraiment, il faut s'adresser au corps, il faut percuter le bassin, le ventre, quoi. Et chez nous, il y a quelque chose qui est très important, c'est le rôle de la basse. Dans l'impératrice, vraiment, la basse a un rôle primordial, parce que je trouve que c'est vraiment le cœur d'un morceau. Un morceau sans basse, ça n'existe pas, finalement. Et là, on a vraiment mis l'accent dessus pour faire danser les gens, pour que les gens comprennent à quel point c'est un instrument touchant. Et chez les Daft Punk, vous parliez de la basse tout à l'heure, chez les Daft Punk, c'était un élément central aussi. Et c'est l'élément qui fait le plus danser, qui est reconnu comme tel.
Qu'est-ce qui vous fait planer, tous les deux?
franchement, les lives, c'est quelque chose qui nous manque énormément aujourd'hui. Et alors planer dans un sens comme l'autre, franchement, c'est parce qu'on voyage aussi beaucoup grâce à nos tournées. Et c'est vrai que ouais, moi, c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui et ce qui me procure le plus de plaisir.
C'est un type de trip. Et vous, Charles?
Pareil, je dirais la tournée, parce qu'on se laisse complètement porter. En fait, c'est hors temps. C'est quelque chose ouais, de complètement planant, la tournée. Tu sais pas vraiment où t'es, tu sais pas à qui tu t'adresses, et en même temps tu t'en rends compte au moment où tu joues, et tu te dis, mais ok, là on est à New York, on est à Mexico, cet été on a été joué en Égypte, dans une espèce de baie au milieu du désert, et ouais, c'est franchement planant de se dire que bah, grâce à cette musique, tu peux voyager, tu peux rencontrer des gens partout dans le monde.
Tu sais que c'est un peu pareil avec un studio de radio, on peut faire semblant d'être ailleurs.
Faisons semblant.
On peut s'imaginer, on fait semblant alors, bah, on plane, alors l'impératrice en quelques morceaux, c'est ça. Ça aussi. Agitation tropicale, créature astrale, courtisane entre en soupirant de l'élégance idéale. Une dernière. Charles, ça fait 10 ans que vous avez créé l'Impératrice avec 4 de vos amis. Flore, vous les avez rejoints en 2015. Quand est-ce que vous avez réalisé qu'il manquait une voix au groupe, Charles ?
En 2015, en rencontrant Flore, justement, parce que je l'avais pas réalisé jusqu'à ce que je rencontre Flore. Et j'avais écouté quelques morceaux sur lesquels elle avait chanté, et j'avais été séduit par cette voix sans la connaître, et on s'est rencontrés purement fortuitement, ce qui était assez génial. Mais ce qui était amusant, c'est que jusqu'à ce moment-là, moi j'essayais de reproduire le son de la voix avec d'autres instruments, des vieux instruments,
ouais.
Sachant que les synthétiseurs à la base étaient faits pour reproduire en fait un orchestre, une voix, des cordes, enfin des vents, tout ce qu'on voulait. Et je me suis dit, mais si ce groupe s'appelle l'Impératrice et qu'il n'a pas de voix, ça reste qu'un avatar, ça reste qu'un autoportrait.
Ce qui veut dire, c'est qu'avant de rejoindre l'Impératrice, Flore, vous chantiez déjà dans plusieurs formations. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe fonctionne, qu'on s'y sent bien, que ça marche en fait ?
Faut trouver sa place. C'est vrai que c'est pas facile. Et puis moi, je viens du jazz, surtout à l'origine, donc une musique quand même très différente où on a l'habitude d'être plutôt interprète et pas forcément de composer. Donc moi, j'ai commencé vraiment à composer, à écrire quand je suis rentrée dans l'Impératrice. Donc au début, j'étais très intimidée. Ça a été très très difficile.
Et venant du jazz, vous aviez une exigence de liberté justement et de création aussi, je suppose.
Oui, parce qu'il y a une part d'improvisation dans le jazz effectivement qui est liée à cette liberté là. Mais c'est vraiment un milieu très différent. Avec un public aussi très différent. Le public jazz ne danse pas autant que le public de l'Impératrice.
Mais c'était cette couleur-là que vous recherchiez aussi, la couleur jazz ?
Pas forcément. C'était plus un timbre de voix. Flore, elle a cette voix très très cristalline et légère qui fait qu'au début j'ai pu l'utiliser comme un instrument. Parce que moi je voulais une musique instrumentale. C'est vraiment ce que je voulais. Je voulais échapper au format pop. Ce format auquel les gens s'identifient juste par la voix, et je voulais proposer quelque chose d'instrumental, et du coup c'était une façon d'utiliser un autre instrument mais beaucoup plus vivant.
Cette liberté dont vous parlez, Flore, cette écoute aussi que vous avez trouvée dans l'industrie musicale, direz-vous que c'est difficile à trouver, particulièrement en tant que femme ?
Ah oui, tout à fait. Bien sûr, les femmes dans la musique sont invisibilisées. C'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, et ça améliore, mais c'est quand même un vrai problème. Il y a très peu de femmes, finalement, dans l'industrie.
Oui, je vous pose la question parce qu'il y a un peu plus d'un an, vous avez entendu parler de l'omerta concernant les violences sexuelles, le sexisme, notamment dans le milieu de la musique. Dans quelle mesure, avant de rejoindre l'Impératrice, vous en avez fait les frais très directement, vous ?
J'en ai fait les frais au sens où dans le jazz, c'est un milieu... Le jazz, c'est le genre musical qui est le plus masculin parmi tous les genres dans la musique, et c'est vrai que je crois qu'il y a 4% de si je ne m'abuse, de femmes dans le jazz. Donc c'est un milieu très difficile, surtout que la plupart des femmes sont les chanteuses. Donc vraiment, les chanteuses, on est un peu la dernière roue du carrosse, et on est en général on nous appelle les chianteuses, voilà, pour ainsi dire. Mais c'est vrai que voilà, après moi j'ai eu beaucoup de chance, mais je sais que je connais énormément de femmes qui ont eu des carrières très difficiles et qui ont dû briser leur arrêter en fait leur carrière
parce
à cause de
qu'est-ce
ces
qu'est-ce qui a rendu votre prise de parole possible en fait. Je sais que certains et certaines ont pu vous en dissuader.
Bien sûr, c'est le fait d'être justement moi dans un environnement très très safe. Aujourd'hui, je suis entourée de 5 musiciens et d'une équipe aussi qui est essentiellement masculine, une équipe technique, je veux dire, mais qui sont très bienveillants avec moi et qui m'encouragent en tant que femme à m'engager aussi pour donner plus de visibilité aux femmes dans la musique. Ce que je fais, voilà, c'est un des combats que je mène tous tous les jours. J'ai un podcast notamment qui parle de ça, qui s'appelle Chercher la femme.
En quoi c'est important aussi pour vous, Charles, en tant que groupe composé majoritairement d'hommes, qui s'appelle l'Impératrice, que cette voix se fasse entendre aussi, cette prise de parole-là?
Peut-être parce que, de départ, l'Impératrice, c'était en quelque sorte l'autoportrait de ma féminité. Quand j'ai décidé de créer ce groupe, ce projet, c'était parce que j'ai découvert quelque chose de très féminin en composant de la musique. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'on avait tous une grande part de féminité en nous et que je déciderais, à partir du moment où je sortirais des morceaux, de l'assumer et de me battre pour. Et voilà, c'est toujours ce qu'on apprenait avec ce projet, quoi. Donc évidemment, le soutien et l'accompagnement de Flore dans ce sens-là est évident.
Vous savez qu'il y en a une qui ne manque jamais de se faire entendre dans cette émission, vous la connaissez évidemment, c'est la culture. Et son actualité qui n'hésite jamais à taper du poing sur la table. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 27 janvier?
Vous le savez, ceux qui jouent un peu moins bien ne l'auront pas.
Pression et compression, l'Académie des Césars a dévoilé hier la liste de ses nominations. Illusion perdue de Xavier Giannoli, Annette de Léos Carax et Aline de Valérie Lemercier partent grands favoris en cumulant 15, 11 et 10 citations chacun. Dans Boomerang, on se réjouit aussi des deux nominations de Onoda d'Arthur Harari et de Slalom de Charlène Favier. On s'étonne de l'absence totale et cruelle du dernier François Ozon. Rendez-vous le 25 février prochain pour les attributions.
Bienvenue à l'Art Basel.
Coup de tonnerre sous la verrière, après 47 ans de bons et loyaux services, la célèbre FIAC, plus grand rendez-vous d'art contemporain en France, vient d'être délogée du Grand Palais au profit de la très suisse Art Basel. Une décision annoncée hier après des semaines de rumeurs, dans le but affiché de renforcer le rayonnement international de la manifestation et de stabiliser les finances du Grand Palais, mises à mal par des travaux titanesques prévus jusqu'en 2024. Première édition de cette foire, nouvelle génération en octobre 2022.
Je crois que la philosophie se dissout et se dissipe dans toute une série d'activités de pensée.
Reconstruire ensemble, c'est le thème choisi pour la 7e édition de la Nuit des Idées, organisée par l'Institut français, qui commence aujourd'hui partout dans le monde, dans le cadre de la présidence tricolore du Conseil de l'Union européenne. Le débat à la française, comme on dit, sera mis à l'honneur dans plus d'une centaine de pays. Au programme des débats, les conceptions du collectif, le vivre ensemble, la résilience face aux crises, ou encore les conditions d'un pacte social renouvelé. Toutes les infos et rendez-vous à retrouver sur le site lanuitdesidées.com. Les petits plats dans Le Grand, à l'occasion des 3 ans de sa disparition, Radio France met à l'honneur le compositeur Michel Legrand pour un week-end de concerts et d'hommages. Ce soir et demain, dans l'auditorium de la Maison Ronde, résonneront en philharmonique ses plus grands airs, composés pour les films de Jacques Demy, Jean-Luc Godard ou Joseph Losey. Dans le même temps, France Musique consacre au maestro un feuilleton radiophonique dans son ciné-tempo. Et nous, dans Boomerang, on vous invite à réécouter le bel entretien qu'il nous avait accordé il y a 5 ans. C'est grand. Et le groupe L'Impératrice, invité de Boomerang ce matin pour cette nomination, notamment aux Victoires de la Musique. Et force est de constater que parmi les nommés, il y a assez peu de groupes indépendants comme vous, hormis peut-être Feu Chatterton. Alors c'est intéressant, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être indépendant, d'abord?
Par définition, c'est ne pas appartenir, ne pas être signé, et ne pas être dans le circuit des majors, donc des gros labels comme Universal, etc. Être indépendant, c'est être dans une petite structure qui ne prend pas en compte les obligations commerciales que peuvent avoir les artistes mainstream, par opposition.
C'est-à-dire que ça permet véritablement d'échapper à toute idée de formatage, c'est ça, si je vous comprends bien?
Oui, c'est une liberté totale. Donc, ce qui est artistiquement super pour nous, après, ça demande aussi beaucoup d'efforts, forcément, et d'abnégation.
Mais par exemple, précisément sur le temps des morceaux, sur ce genre de choses?
Ah oui, on est très libre de faire ce qu'on veut. On a un label donc qui s'appelle Microclimat, qui est une toute petite équipe et qui est vraiment qui travaille avec nous main dans la main, et on est entièrement libre.
Et cette résistance face à une musique formatée, comment ça s'exprime concrètement au sein de vos derniers morceaux?
Dans les propos, je pense, même dans l'approche musicale, on est très très libre, quoi. Déjà, on a le temps de pouvoir se pencher et composer. On peut mettre 2 ans à composer un album sans que personne nous dise rien, ou presque. Et déjà, ça c'est très précieux parce qu'on a le temps de la réflexion. C'est important quand on fait de la pop de pouvoir réfléchir et d'aller en profondeur.
Et éviter, par exemple, le systématisme du couplet-refrain.
Exactement.
Je suppose, au fond, qu'est-ce qui décide de la structure d'un morceau dans votre groupe?
Qu'est-ce qu'il y a le final cut, vous voulez dire?
Ouais. Bah, on décide pas vraiment à l'avance, en fait. En général, on laisse le morceau décider ça lui-même.
Intéressant.
Ouais, parce que c'est comme le choix de la langue, par exemple, parce que moi je chante en français et en anglais dans l'Impératrice, et c'est pas vraiment quelque chose qu'on décide auparavant, c'est plutôt ce que l'émotion du morceau nous procure. Si la langue qui vient c'est de l'anglais, ce sera de l'anglais, sinon c'est du français, on décide pas ça pour du marketing ou autre, quoi.
Et puis je suppose qu'être indépendant, c'est aussi se laisser la possibilité de prendre son temps. Quel luxe est-ce que c'est pour vous, en tant que musicien, de prendre son temps, justement?
Celui de la réflexion, ce que je disais, c'est hyper important, quoi, d'aller au bout de ses idées, de pas être contraint par, voilà, 6 mois pour prendre un disque avec des morceaux de 3 minutes. Là, on peut se dire que si on a 150 idées sur un seul morceau, on va pouvoir toutes les rassembler.
La réflexion et, à vous entendre, l'expérimentation aussi, alors.
Évidemment, c'est très important, l'expérimentation. Si on regarde la discographie de l'Impératrice de près, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup d'expérimentation, que chaque disque est un petit laboratoire, comme ça, d'expérience, où on a essayé d'expérimenter la chanson sur Matahari, la déconstruction totale sur Takotsubo, la chansonnette, l'utilisation de la voix comme un instrument sur l'EP Odyssée, etc. Même le hip-hop, avec le premier morceau qui est sorti en 2012. Donc l'idée, c'est de pouvoir changer, d'avoir cette liberté-là, et c'est fantastique.
L'Impératrice, qu'est-ce qui fait pour vous la beauté d'un son?
Oh là là. C'est très subjectif, en plus, la beauté d'un son.
Oh là, c'est vraiment...
difficile. Je dirais... Vas-y, Charles. Je crois que Charles voulait dire quelque chose.
Ouais, non, moi je dirais que c'est quand, à partir du moment où on l'entend, il arrive à vous faire oublier tout le reste, quoi. Quand vous pouvez projeter des images dessus.
Ça vous plaît?
Ouais, c'est ça, oui, c'est le côté cinématographique de la musique, en fait.
Je me demandais dans quelle mesure c'est peut-être de plus en plus difficile pour des jeunes musiciens de prendre du temps, justement, de parier sur une temporalité qui est celle du temps long et pas de l'immédiateté, aujourd'hui, qui est partout, à l'ère du tout tout de suite.
Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, surtout que on a le marché de la musique est vraiment occupé par le rap, qui est une musique extrêmement immédiate, où il y a beaucoup de contenu qui se crée tous les jours. C'est une façon de faire de la musique extrêmement rapide. Quand vous prenez, je sais pas, par exemple, Jul, qui est un artiste qui, voilà, il produit, mais à la chaîne, et nous, on n'est pas capable de faire ça. Mais justement, on compte sur le fait que notre musique peut voyager aussi beaucoup.
Et puis il y a tout ce qu'il y a autour, en fait, aussi, de l'industrie de la musique. Je pense à un de vos morceaux qui s'appelle Hématome, sur la manière dont les réseaux sociaux ont envahi nos vies au point qu'il est devenu vraiment difficile de les éviter. Au fond, comment vous sentez par rapport à cette époque? Et comment vous composez avec cette époque, dans tous les sens du terme, après tout, vous composez de la musique?
C'est très difficile. Effectivement, il y a une relation d'amour-haine avec les réseaux sociaux qui sont, pour nous, surtout en tant que groupe indépendant, notamment une très bonne vitrine, parce que c'est une façon de pouvoir s'exprimer librement, d'avoir accès à nos fans dans le monde entier. Et en plus, comme on le disait, on a la chance d'avoir des auditeurs vraiment partout dans le monde. Donc les réseaux sociaux sont très utiles pour ça. Et en plus, avec la partant de pandémie, c'était vraiment assez indispensable. Et en même temps, on les déteste aussi parce que ils nous ont causé parfois beaucoup de peine. Et on sait très bien qu'ils accentuent aussi ce côté très individualiste, alors que nous, on a un groupe. Et mettre en valeur un groupe à travers les réseaux sociaux qui valorise souvent l'individualité, c'est très compliqué.
Parfait.
On va reparler de composition d'époque, de féminin, juste après Peur des filles. Extrait de votre dernier album, Takotsubo. Vous êtes sur France Inter avec l'Impératrice. Vous écoutez Boomerang. Vous n'avez peur de rien, évidemment.
Monter la menace, tu dis ça, t'es pas macho.
Inter. Boomerang. Augustin Trapenard.
Une chose est sûre, c'est qu'ils font pas peur. Hein. Je vous rassure tout de suite, on est quelque part entre Hansel et Gretel, Tom Pouce et Pousselina. Sissi est l'impératrice, le mec a rien compris. Elle a le visage symétrique, le regard Cléopâtre, il a les cheveux flous, l'œil qui frise, elle a les cheveux roses surtout, le groupe L'Impératrice. Invité de Boomerang pour cette nomination aux victoires de la musique dans la catégorie Révélation féminine, ce qui est quand même intéressant d'avoir un groupe nommé dans cette catégorie, alors même que vous êtes un groupe, c'est ça? Donc
exactement, oui.
Oui.
Bah, y a pas de case pour les groupes. Y a pas de catégorie groupe.
Bah, ça nous avait surpris, comme effectivement, la disparition de cette catégorie. Qu'est-ce que ça dit? Parce que c'est passionnant de l'évolution du milieu de la musique, L'Impératrice.
Ça dit beaucoup sur le marché, je pense, et sur les contraintes financières qu'impose un groupe. C'est très, très cher. Ça nécessite un studio, ça nécessite la présence de plusieurs musiciens, etc. C'est une espèce en voie de disparition.
Vous voulez dire que c'est plus difficile d'exister en tant que groupe aujourd'hui que d'exister en tant qu'artiste solo, tout simplement?
Ouais, évidemment.
Bien sûr.
Ce que disait Flo, par rapport aux réseaux sociaux, les gens s'identifient tellement à une personne. On est un peu un retour des idoles, quoi. Tu vois, genre, c'est les gens ont besoin d'une icône pour s'identifier.
Oui, et c'est d'autant plus intéressant, on en parlait, Flore, que quand vous avez intégré L'Impératrice, c'était aussi dans la volonté de vous fondre dans le collectif et pas particulièrement d'être mise en avant.
Ah, bien sûr, tout à fait, et c'est quelque chose qu'on défend encore aujourd'hui, même si, voilà, quand on fait des interviews, souvent c'est Charles et moi, mais on essaie le plus possible de les faire à six, et on essaie de s'exprimer toujours à six voix, alors pour parler tous les six en même temps, c'est parfois un peu complexe.
Parce que cette structure collective, qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous? Personnellement, en tant que musicienne, en tant que chanteuse?
C'est très important. Moi, j'aurais du mal à faire un projet solo parce que j'ai l'impression qu'on a toujours besoin de recul quand on est seul. Et c'est vrai que là, tous les six, on s'apporte énormément de choses. On a tous des influences très différentes. On vient de milieux musicaux très différents. Et c'est extrêmement riche, en fait, l'échange qu'on peut avoir au quotidien en composant et en jouant. Donc, c'est très important d'être en groupe.
Vous dites que c'est difficile de parler à six, mais composer. Alors, composer à six, dans quelle mesure la composition, c'est un processus collectif également?
Disons que c'est le premier qui a une idée, elle est validée. Si elle est validée par les autres,
donc il y a un vote à main levée.
Non, c'est plus un consensus, quoi. Disons que il y a un fil rouge dans la musique de ce groupe. Il y a cette émotion qui nous est commune, avec laquelle on est tous d'accord, qui nous touche. À partir du moment où on la ressent dans une suite d'accords, dans une idée, quelle qu'elle soit, on va s'y mettre, quoi. On va se mettre à broder, à arranger.
Mais quelquefois, il y a quelqu'un qui propose quelque chose et là, tout le monde.
Et c'est nul.
Tout le monde dit non, là non.
Ouais, ça arrive.
Oui, bien sûr. Ah
ça arrive,
c'est
mais non, épouvantable.
Non. Ah, mais on se connaît bien maintenant, on se juge pas.
Comment ça se passe? De quoi ça naît, un morceau de L'Impératrice?
Ça naît souvent des synthétiseurs quand même, j'ai l'impression. C'est souvent une idée de, sur un synthé, une suite d'accords, et après chacun se greffe au fur et à mesure, chacun rajoute sa partie, et moi en général je fais vraiment les voix à la fin.
Un rythme aussi, Charles ?
Un rythme, le tout premier morceau est né d'un rythme, c'était un sample de Superstition de Stevie Wonder.
Classe.
Et ça peut, ça peut naître de ça. Après, je dirais que oui, majoritairement, ça naît d'une suite d'accords. C'est comme un pitch, un mini scénario qu'on va étoffer ensuite, quoi.
Et quand vous dites que vous posez votre voix à la toute fin, quand est-ce que les mots interviennent quand même dans le processus de création? Parce que je sais que vous écrivez parfois tous les deux justement à quatre mains.
On a beaucoup écrit ensemble sur le premier album, c'est vrai. Les mots, par contre, effectivement, arrivent en fin de course. Vraiment, moi je suis d'abord sur la mélodie, donc je fais une mélodie en ce qu'on appelle en yaourt. Donc c'est un peu comme quand on chante en anglais et qu'on sait pas du tout les paroles.
Faites-nous un yaourt sur la impératrice qu'on comprenne tout de suite
non.
Ce que ça fait.
Ça va être honte.
Mais non, pas du tout. Vous savez, qui nous a fait du yaourt récemment?
C'est top secret, les yaourts. Bah, voilà, si quelqu'un vous l'a fait.
Christophe était venu dans cette émission, il nous avait fait carrément une émission en yaourt, c'était merveilleux.
Parce que moi je vous dis yaourt en français en plus. Donc
mais
c'est
qu'est-ce
vraiment,
que je veux savoir, Flore.
Bah, c'est juste des mots qui veulent rien dire.
Par exemple, sur n'importe quelle chanson, dites-moi, trois notes.
Ah non, vraiment, là, vous me prenez au dépourvu. mais c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Je fais un yaourt et après je remplace tout ça par des vraies phrases.
Et qu'est-ce qui fait que vous choisissez un mot plutôt qu'un autre, justement?
C'est vraiment le son d'abord, parce que parfois mes yaourts en question sont justement les mots que je choisis pour le yaourt sont c'est très bizarre ces phrases que je suis en train de faire.
C'est très bien, mais le danger c'est de devenir Paris Combo, hein, où on comprend plus toutes les paroles. Ça, on l'a tous vécu.
Mais il y a eu un gros travail entre le premier et le deuxième album là-dessus.
Oui.
Entre le son et le sens. Il y avait beaucoup, on utilisait énormément les assonances sur le premier disque. Il y avait un côté très hors sol, le propos importait peu. À l'inverse du deuxième, où le propos importait énormément, au détriment peut-être parfois du son, même si on essaie d'allier les deux le mieux possible.
C'est intéressant de faire sonner le français, le faire groover. Quelle difficulté est-ce que ça pose? Effectivement, vous parliez du fait que vous chantez à la fois en français et en anglais, Flore.
C'est très dur. Pour moi, le plus difficile, effectivement, c'est de faire groover le français. En France, on est très exigeant avec la langue, alors qu'en anglais, j'ai l'impression que les gens sont beaucoup moins regardants sur est-ce que le morceau va dire quelque chose ou pas. Et c'est vrai que pour le deuxième album, j'avais vraiment envie de donner plus de sens à mes paroles et qu'en même temps, elles gardent du son. Et j'ai travaillé pour ça avec un jeune rappeur qui s'appelle Fiskara, qui est aussi signé chez Microclimat, notre label, et qui est quelqu'un qui m'a vraiment amené cette idée de donner plus de sens. Parce que dans le rap, et finalement, le rap, c'est ça, c'est qu'il y ait du rythme, qu'il y ait du son, mais qu'il y ait aussi beaucoup de sens.
Et est-ce qu'on peut envisager qu'une chanson, une fois écrite, change dès lors qu'elle est jouée sur scène?
Ah oui, bien sûr.
C'est le principe.
Ouais.
C'est le principe. Sur scène, on revisite complètement les morceaux. On veut pas faire écouter aux gens la même chose que sur un disque.
Au point de changer les mots aussi?
Non. Les mots restent les mêmes. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière, par contre.
Au fond, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur scène?
Beaucoup de spontanéité, énormément de spontanéité, et surtout on est spectateur du changement des morceaux parce qu'on sait pas comment les morceaux vont évoluer. Ça dépend tellement du public, ça dépend du pays dans lequel on joue. C'est ça qui est fantastique.
Est-ce que vous avez l'impression parfois de disparaître quand vous êtes sur scène, de vous fondre dans le collectif, dans la musique, dans la lumière?
Ah ouais, bien sûr, oui, parce que vraiment sur scène on est tous les six avec nos instruments et on ne forme plus qu'un.
C'est ça qui est immense, c'est de s'oublier, d'oublier son propre stress, de pas avoir peur de faire d'erreurs, de se dire qu'on est au service de l'impératrice finalement.
Il se trouve que notre studio est aussi une scène, ça vous le savez peut-être pas, mais moi je vous le dis, et qu'elle vous est ouverte ce matin. Vous avez choisi pour terminer cette émission de nous faire entendre, rien que pour nous, une reprise d'un titre de Justin Timberlake qui s'appelle Cry Me a River. C'est l'impératrice, c'est parti.
You were my sun, you were my earth, instead. It was like you only talked to him and you know it. All of these things people told me, you messing with my head. Should I be toxic and you may have not blown it. You don't have to say what you did, I already know. I found out from him, no there's just no chance. With you and me, there'll never be. Don't you make you sad about it.
You told me you loved me, why did you leave me?
Mais la classe, l'impératrice qui reprend Cry Me a River de Justin Timberlake un jeudi matin sur France Inter, dans Boomerang évidemment. Merci Flore, merci Charles, merci, merci l'impératrice d'être venue faire un tour dans cette émission. Merci à Maxime Godard ce matin à la technique. Je rappelle que vous êtes nommé aux Victoires de la Musique, que votre dernier album Takotsubo est toujours disponible et que vous serez en concert dans toute la France, en Europe et aux États-Unis à partir du 4 février, avec notamment un Zénith à Paris le 28 mars prochain. Tout de suite, les médias. Sonia de Villers.